Enfin, comme je vous remercie de m'avoir proposé de participer, je suis là simplement pour accompagner Clémence et pour parce que je suis intéressé par cette discussion.
Et vous avez un profil professionnel, vous avez
J'ai un profil professionnel qui est totalement différent. Je travaille dans le bâtiment.
Oui, mais pourquoi pas. On a eu un moment un intérimaire ouvrier dans une usine de verre. Et qu'on voulait absolument faire intervenir justement sur les questions d'interculturalité en entreprise. Je fais référence à un livre qui s'appelle Les Établis, je ne sais pas si vous l'avez.
Il me parle.
Voilà. Et malheureusement, il a renaclé devant l'obstacle, on ne l'a plus jamais revu. Mais c'est un thème qui nous paraît quand même tout à fait intéressant. Oui. Et alors, on ne va pas vous effrayer tout de suite. Et sachez qu'on sera tout à fait preneur si vous êtes partisan voilà, pour nous parler de cette expérience. Dans le BTP en particulier, il y a quand même des questions d'interculturalité qui se posent et qui ont été assez récemment soulevées avec la loi Molière. Là,
c'est pour le détachement.
Non, c'est qu'il fallait qu'ils apprennent le français.
Ah oui, tout à fait.
Donc voilà, mais bon. Très bien. Donc, c'est pas du tout aussi exotique par rapport à nos réflexions, bien au contraire. Bien au contraire.
Bonjour, moi je m'appelle Clémence. Je suis interne en médecine générale. Je finis bientôt. Et j'ai eu le plaisir de réaliser le DU Santé des migrants avec le docteur Tessier, donc c'est comme ça que j'ai eu connaissance de la tenue de cette conférence. Et l'anthropologie m'intéresse, mais je pour l'instant je suis au stade de découverte.
Parlez un peu de votre mémoire.
Ah.
Parce qu'on est aussi dans les diversités.
Du coup, dans le cadre de ce DU de santé des migrants, j'ai fait mon mémoire. En fait, j'ai voulu proposer des ateliers d'éducation pour la santé sexuelle et affective auprès de demandeurs d'asile et demandeuses d'asile qui avaient subi des violences dans leur pays en lien avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et comme en fait ils réunissent quand même plusieurs facteurs de risque, même si j'aime pas trop ce mot là, en tout cas ils sont identifiés comme étant des populations vulnérables sur le plan de la santé sexuelle et affective, je trouvais ça intéressant de pouvoir leur proposer ça. Et ça marche, et on est content.
C'était tout à fait intéressant, très intéressant.
Oui. D'autant que la thématique des demandeurs d'asile, anthropologiquement parlant, est absolument passionnante. J'ai eu à suivre plusieurs travaux d'étudiants, de mes étudiants sur ces questions-là, à écrire des préfaces à leurs publications, etc. Et c'est vraiment, vraiment tout à fait passionnant. Alors moi, je suis anthropologue. J'ai été professeur à l'Université Paris 1. Je suis africaniste et je vais vous parler d'Afrique ce matin. Je travaillais particulièrement ces dernières années sur une thématique où je rejoins Frédéric, c'est-à-dire les communs. En fait, je suis arrivé en 1969 au Sénégal pour travailler sur des problématiques foncières sans savoir que je travaillais sur les communs. Et ce n'est que très lentement que cette thématique-là a émergé et est en train de devenir maintenant absolument centrale, avec une réinterprétation de l'ensemble de l'héritage institutionnel et conceptuel hérité de la période coloniale. Donc je vais essayer tout à l'heure de vous faire un petit point sur la manière dans laquelle les Africains, certains Africains, commencent à se situer par rapport à des héritages pour, contribuer à ce que j'appelle la néo-modernité africaine. Là, ils sont en train d'inventer des choses qui nous échappent plus ou moins complètement, si nous n'avons pas les clés qui permettent de reprendre les interprétations là où on aurait dû les prendre, au 17e, au 18e, au 19e siècle, et puis on est passé à côté de ce qui fait l'originalité, la richesse de cette civilisation qu'on a totalement caricaturée. Et donc, maintenant, 2019, 2020, tout d'un coup, on est en train de se dire qu'il y a d'autres manières d'aborder les choses. Et ça, c'est vraiment absolument passionnant. Là, la rencontre des cultures, l'interculturel, devient quelque chose d'absolument passionnant. Enfin, j'en dis pas plus, puisque je vais reprendre la parole tout à l'heure. J'essaierai de ne pas en abuser.
Donc Stéphane Tessier, médecin de santé publique, et puis donc, on a fondé Regard avec Étienne il y a 10 ans, qui faisait suite à 15 ans de collaboration dans les années 90 sur les questions d'enfance et de jeunesse en difficulté. Et je remercie M. Mazagro va nous se présenter tout à l'heure. C'est partie des projets qu'on a menés dans les années 2000 au tribunal pour enfants de Créteil. Moi, j'ai une annonce. Je suis très content de vous annoncer la sortie du livre sur l'interculturalité dans le quotidien professionnel que j'ai écrit et préfacé par Étienne et que j'envoie chez l'éditeur la semaine prochaine.
Très excitant. On va peut-être même. Je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure.
Mais je pense que. Je vais peut-être un peu présomptueux, mais je pense que le prochain samedi. À la rentrée, on le consacrera justement à la sortie de ce livre, hein, et qu'on essaiera d'en travailler un petit peu le développement. Et que je remercie beaucoup Dominique de sa lecture attentive du manuscrit, qui m'a permis de dépister un certain nombre d'erreurs à la sollicitation d'Étienne, qui a dit « il y a quand même encore des choses à faire, est-ce que tu ne peux pas le faire relire ?» Donc je l'ai fait relire à Dominique, qui m'a gentiment corrigé.
Merci de ta confiance.
Non, mais merci.
Donc Dominique Terre, ex-CMPP de Vitry, donc à ce titre-là, l'enfance. Voilà, ouais. En gros.
Bah, psychanalyste quand même.
Oui, psychanalyste.
Non, parce que.
Oui, c'est vrai, le métier de. Oui, bien sûr, psychanalyste.
Donc moi Stéphane, donc je travaille dans l'éducation nationale depuis plus de 20 ans. Donc là, cette année, je suis coordinateur REP, sous le 20e à Paris. J'étais 20 ans CPE, donc j'ai travaillé beaucoup en éducation prioritaire. Donc ces questions-là m'intéressent à l'interculturalité à différents titres. Parce que je pense que ce n'est pas assez pris en compte au niveau de l'éducation. Notamment sur le bilinguisme dès la petite enfance. Même si c'est la situation qui intervient.
Le bilinguisme, alors si vous êtes disponible mardi matin, j'organise un séminaire à Créteil, Solidarité, là au Chic de Créteil, sur la question du bilinguisme avec une orthophoniste.
Elle vient, qui
était une étudiante du DU aussi, que j'ai captée à la suite de son mémoire, que j'ai trouvé absolument passionnant. Je ne sais pas si vous avez partagé.
J'ai beaucoup aimé. Et, puis, ouais.
Et donc,
ce ne sera pas possible.
Ce sera pas possible parce qu'on a l'éducation nationale qui vient.
Pour raison de travail, quoi.
D'accord. Bon.
Moi, c'est Maïe Nana. Alors, je suis principale adjointe dans un collège REP Plus à Bondy Nord, qui a une région, un quartier repéré dans les politiques éducatives, cité éducative bientôt. Et j'ai rencontré Stéphane il y a quelques années quand j'étais au Blanc-Ménil en tant que CPE, où il y avait des personnels. Des assistantes sociales et des infirmières, et j'étais la seule CPE qui était là, et c'est vraiment, enfin, tout ce que j'entends et tous les échanges font que je mûris mon métier, mon travail et comment j'aborde l'autre. Ça c'est à titre professionnel. Et puis nous avons un projet dont je vais parler nous sommes en train avec Stéphane de porter un projet de construction d'un complexe scolaire au Burkina Faso, mon pays d'origine, parce que c'est parti très loin dans les carences en termes de structure pour rescolariser. J'en parlerai après. Je demanderai aussi l'aide de Stéphane pour se faire connaître et voir ce qui peut être appelé à ce niveau-là. Et ça m'amène à parler de ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, au Niger, qui inquiète beaucoup, donc qui met en difficulté cette problématique. Et puis moi, le fait d'être loin, on entend ce que disent, ce que veulent dire les médias, ou ce que nous apportent les médias. Et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi ? comment on en est arrivé là, alors que ce sont des peuples qui vivent ensemble depuis des millénaires et qui arrivent aujourd'hui à se retourner les uns contre les autres. La culture qui devient un outil de combat, de séparation. Et donc je mélange un petit peu tout parce que tout est fouillé dans ma tête en fait. Et voilà. Donc c'est un petit peu une présentation succincte de ce que je fais, de ma vision et de mon intérêt. Enfin, d'un grand merci que je vous adresse à tous. À chaque fois que je viens, Monsieur Leroy, à chaque fois que je viens, je repars avec notre lecture et je partage et j'espère que ça va y semer. Et j'espère un jour voir franchir cette porte des personnes auxquelles j'ai parlé de ce qui se passe ici, de ce qui se dit. Bon, je n'arrive pas à mobiliser encore au-delà. J'espère qu'un jour, ça se fera. Bon, merci pour ce que vous...
Non, mais merci de votre soutien. Merci. Et pas de problème hein, pour le Burkina. Ça fait longtemps que j'y suis allé.
Il faut être extrêmement attentif à ce qui est en train de se passer au Sahel en ce moment.
Absolument.
On est en face d'un naufrage. Naufrage.
On a marre des naufrages.
Tout l'héritage étatique ou institutionnel, et c'est en quelques années, c'est absolument accablant. Les informations que moi je reçois, en particulier du Mali, sont terrifiantes.
Ouais.
Hein, alors vous évoquez les relations Peul-Degon. Les relations Peul-Degon, au 19e siècle, hein, elles étaient plutôt.
Oui.
On a peut-être un siècle de pacification relative grâce à la colonisation. Hein, mais quand même, et moi j'ai beaucoup travaillé dans cette région-là, et entre les deux, dans les années soit 80-90, c'était déjà.
Des tensions, oui. Ben, ce qui se passe au Burkina, les cultivateurs, hein, les sédentaires, et puis les peuls qui sont nomades avec
eux,
depuis toute petite, j'entends. Mais à l'époque, ça se réglait devant les tribunaux, que là, aujourd'hui, on s'entretue. La violence a dépassé des...
Ce qui est pas nouveau, mais en fait, il y a quand même une marque d'espoir. Moi, j'étais mobilisé dans les années 80, début des années 80, 1980 même, au Karamoja, où il y avait justement un conflit entre les nomades Karamajong et les éleveurs, les nomades éleveurs et les sédentaires, qui aboutit à une catastrophe humanitaire épouvantable, et aujourd'hui, c'est pacifié. Aujourd'hui, c'est pacifié. Donc, tout n'est pas forcément...
L'espoir.
Voilà, le désespoir n'est pas forcément certain.
Merci.
Oui. Alors, moi, je travaille un tout petit à côté de tout ça, hein, je vous dis tout de suite. Alors, je suis pédiatre à Vitry-sur-Seine, donc en Val-de-Marne, et mon premier voyage en Afrique, c'était dans le ventre de ma mère. Et le second, je me le suis offert quand j'étais étudiante en médecine, je suis allée jusqu'au pays de Gabon. Voilà, grâce à ma mère, j'ai une tendresse particulière pour l'Afrique, excusez-moi. Et sinon, ben, je travaille tout petit, avec les petits au début. En particulier, je m'intéresse beaucoup au bilinguisme. J'essaye d'obtenir qu'ils ne mélangent pas les deux langues dans la même phrase. J'essaye d'obtenir...
Tu viendras mardi.
J'essaye d'obtenir que la maman parle la langue dans laquelle elle est à son aise et que ce soit quelqu'un d'autre qui parle l'autre langue. J'essaye d'obtenir qu'ils parlent deux langues avant 6 ans parce que c'est la plus belle des richesses. Je leur explique que c'est mieux d'avoir deux jambes pour marcher qu'une seule. Et voilà. Alors moi, je travaille tout petit, d'accord?
Non.
Je n'ai pas ces grands projets internationaux que j'admire beaucoup.
C'est formidable parce que moi je me rends compte que voilà, là vous encouragez. Moi je me souviens quand mes enfants étaient petits, quand je leur parlais soit en Amoré, soit en Dioula, c'est deux langues du Burkina que je parle, le Dioula qui est un peu une langue du Bambara. Et leur père, qui est ch'ti, me disait, ah non, on ne parle pas, voilà, on parle, c'est le français ici.
Oui, alors...
Donc mes enfants, aujourd'hui, m'en veulent parce qu'ils ne comprennent rien du tout.
Alors, quelquefois, c'est les enfants qui refusent de parler la langue, parce qu'ils veulent s'intégrer à tout prix.
Oui.
Voilà. Alors, c'est jamais gagné d'avance. Mais, faut pas désespérer.
Moi, je suis Frédéric Sultan. Moi, j'ai un parcours de militant d'éducation populaire. Donc, j'ai travaillé presque 40 ans maintenant, quand même, finalement, dans cette perspective de transformation sociale et de transformation politique, et avec aussi un gros fond de départ de travail auprès de la jeunesse ou de la petite enfance aussi. Et j'étais, comme le disait Étienne, amené à travailler la question des communs dans cette perspective-là. C'était comme une suite, comme presque même une sorte de manière de revisiter ce métier d'animateur socioculturel par lequel j'ai commencé, puisque à l'époque ça s'appelait comme ça, et qu'aujourd'hui on renomme comme médiateur, comme facilitateur, c'était sous des termes qui parfois prennent une dimension technique, ou mettent en avant en tout cas la dimension technique ou la dimension des protocoles et de l'élaboration des protocoles qui sont mis en œuvre. Voilà, et puis
vous allez parler, nous expliquer là.
Alors, Bertrand Mazabro, moi je suis magistrat. Il y a 5 mois, ça, j'étais juge des enfants au tribunal de grande instance de Paris. Depuis 5 mois, je suis à l'École nationale de la magistrature pour la formation continue des magistrats. Donc, grosso modo, j'ai en charge de la formation continue des magistrats, qui soit bien ouvert sur les questions de société. Et si je me suis réinvité ici, c'est parce qu'effectivement on s'était vu à Créteil quand le DU de médiation culturelle, vous cherchiez à le relancer, parce que la première mouture, c'était avec Étienne Leroy et Antoine Garapon. Et alors après, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu.
Je vais en parler parce que j'ai 2 excuses justement.
Alors moi, je reviens là pour une raison, j'ai envie de dire, bête et pragmatique, c'est que j'habite à côté.
Ah bah, bienvenue. On attend peut-être Catherine Sultan, elle va peut-être venir parce qu'elle habite à côté aussi.
J'ai hier dans la rue, donc Catherine, donc j'ai aimé qu'elle vienne, mais dans ce cas-là, on ne s'est pas du tout coordonné. Je ne savais pas qu'elle s'était inscrite aussi, mais oui, elle habite rue de Froidevaux et moi rue de la Guerre, donc on ne peut pas faire. La deuxième raison, qui est une bonne raison cette fois, c'est que le thème, ça fait longtemps. Enfin, l'interculturel, ça fait longtemps que ça me travaille, parce que dans mes fonctions de juge des enfants, on y est mais directement confronté sur la manière de pouvoir, ne serait-ce que prendre une décision acceptable avec les familles, avec l'enfant, pour l'enfant, sur les référents, essayer de comprendre, parce que c'est bien de prendre une décision gagée sur la procédure civile française. Mais si elle n'est pas du tout comprise par les familles, finalement c'est du papier et ça ne donne rien, ou ça peut même avoir d'autres effets. Donc c'est quelque chose sur lequel le terrain y est confronté. Et puis là, j'ai envie de dire un intérêt également, pas juste de terrain, mais je monte une formation à l'ENM, donc à l'École nationale de magistrature, pour les magistrats l'an prochain, sur l'interculturel. Voilà, j'ai pris cette initiative. Donc de les former sur une petite session, d'abord je ne vais pas partir très ambitieux, mais quand même, sur 3 jours. Et quand j'ai vu effectivement le mail de regard que je reçois quand même de temps en temps, je me suis dit, mais mince, il faut que j'aille voir, parce que je suis sûr qu'il y a des choses qui, pour l'école, éventuellement, seraient intéressantes, une intervention, une présentation. J'ai commencé déjà à travailler un peu le canevas, j'ai mis des anthropologues plutôt dans la direction de la session, mais j'y ai mis aussi un module obligatoire avec les traducteurs-interprètes, parce que c'est comme si nous, ça allait de soi. Et en fait, à l'audience, on se demande ce que le traducteur peut bien dire au justiciable quand on lui dit 3 phrases et qu'il y passe 20 ans, et qu'ensuite il nous répond en « oui ». Et sinon, il a dit quoi d'autre ? Oui. Donc il s'est passé quelque chose qui est quand même des grosses boîtes noires, Il y a des fois des...
Je pense qu'Étienne, là, il doit bouillir. C'est 25 ans d'expérience.
Et pour autant, nous, on fait juste... est-ce que vous prêtez serment de porter votre concours à la justice dans votre honneur et votre conscience? La main, c'est bon, quoi. Mais derrière, on ne sait pas trop. Et je crois qu'en même temps, les traducteurs-interprètes que je suis allé chercher à la Cour de cassation sont en énorme demande. Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte de nos contraintes et par rapport aux familles. Et puis ben, derrière, il suffit de tirer un peu le fil. Et on se voit que, par exemple, quand on est de la même ethnie, tout le monde se connaît dans les familles et que le traducteur-interprète ne peut pas traduire, interpréter comme ça, parce qu'il y a des enjeux. Ou alors chez les Roumains, le traducteur-interprète est des fois très déjà péjoratif, enfin je m'exprime mal, mais sur la personne. Donc véritablement il y a des biais cognitifs ou des stéréotypies énormes déjà dedans. Et puis à l'inverse, nous on a du mal à comprendre leurs contraintes. Donc voilà un peu comment j'en suis dans le montage de mon module. Donc je viens aussi un peu à la pêche, et puis de manière plus générale, comme je suis à l'école maintenant, j'ai un peu plus de temps pour le réfléchir. Donc de manière...
Mais l'école est à Bordeaux et vous habitez ici?
Ah non, l'école est à Bordeaux pour former les futurs juges.
D'accord, l'initial.
Mais ceux qui sont déjà juges, c'est-à-dire ceux qui sont bons ou ceux qui sont mauvais, et vous êtes comme ça. Eh bien, il faut quand même les...
D'accord.
Les lois changent, donc il faut les former au changement de loi. Et moi, j'ai la chance, mais ça dépend, d'être sur le pôle des humanités judiciaires. Donc, c'est toutes les formations qui doivent ouvrir. Donc là, je monte la session sur l'interculturel, mais j'ai aussi une formation sur le racisme, l'antisémitisme, les discours de haine. J'ai la laïcité, j'ai la bioéthique, j'ai des choses comme ça.
On pourra peut-être réorganiser une réunion. Une journée de regard là-dessus.
C'est clair, c'est totalement.
Est-ce que vous avez eu accès à l'enregistrement que Stéphane et moi avons fait au mois de janvier à l'occasion de la journée sur Alain Bruel qui s'est tenue à Roubaix? Vous avez entendu parler
de ça? Je vais juste ouvrir une parenthèse parce que je sens qu'il y a des gens qui sont un peu perdus. l'intermédiation culturelle en milieu judiciaire de l'enfance est à l'origine de regard. Dans les années 80-90. Et c'est tout le propos, justement, on s'est rencontré à Créteil à cet égard-là, avec Catherine Sultan, qui à l'époque était présidente du tribunal pour enfants de Créteil, et qui est une amie personnelle, parce que bon, on était en Colombie sur la médiation culturelle aussi. Et donc, c'est le cœur nucléaire de la réflexion qu'on est en train de toucher. On est vraiment au cœur même. Donc c'est pour ça que Étienne est bouillant.
Ce projet, c'est un petit peu pour l'EDF. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui constamment est remis en question, est repris, etc. En même temps, avec des enjeux qui sont incroyablement évidents pour chacun. Moi, on m'avait demandé au milieu des années 90 d'intervenir à l'École nationale de la magistrature pour la formation des futurs juges des enfants. Quand j'étais présenté dans l'amphithéâtre, on me présentait comme anthropologue, il y a la moitié des juges des enfants qui sortaient en disant « nous ne sommes pas concernés ». C'était une manière d'accueillir l'enseignant qui était extrêmement sympathique et culturellement assez reparative.
On peut pas tout avoir. Au moins, les juges des enfants sont les derniers à résister à chaque fois à tout ce qu'on leur demande. Donc ils sont des fois très mal élevés. J'en conviens. Mais la session parce que j'ai été juge des enfants que j'y ai été directement confronté, et de toute façon, le corps il est très hétérogène. Donc ça, on ne peut convaincre que les personnes qui sont déjà convaincues. Il y en a qui, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, vont trouver que l'anthropologie, c'est pas comme ça, que c'est de la psychologie, il y a telle école de psychologie, d'autres. C'est déjà très bien quand ils ont un référentiel extérieur au droit pour le faire fonctionner. Il y en a qui se veulent juge-arbitre. Et chez le juge des enfants, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils font là. Mais ça peut se comprendre par rapport à d'autres positions de magistrats en fonction de leur carrière, s'ils ont été juges d'instruction avant, etc. La session de formation que je fais moi, que je fais, parce qu'elle est validée, donc il faut maintenant que je le fasse, c'est pas pour les juges d'enfants. C'est pour tous les juges. Moi, je n'ai pas le pôle des juges des enfants, j'ai le pôle des humanités judiciaires. Je m'entends très bien avec ma collègue juge des enfants, mais je suis un juge des enfants dans la tête. Quand je changerai de l'école, je retournerai certainement dans un tribunal pour enfants. Mais oui, c'est tous, parce que par exemple, on y est confronté tout simplement au correctionnel aussi. On y est confronté partout, tout simplement. On a moins de temps pour le percevoir ailleurs qu'au juge des enfants.
Il faut qu'on fasse effectivement, comme le souligne Étienne, une matinée spéciale autour de ça. Cet hiver, est-ce que ça serait possible?
On peut essayer, oui.
Ouais. Le prochain samedi, puisque le prochain, cet automne, on fera sur le livre. Donc d'ailleurs, il y a tout un chapitre sur la pédagogie, ce que j'ai rédigé justement, comment faire passer l'interculturalité dans les différentes disciplines.
Mais alors, du coup, le fameux livre là,
dont je dépose le manuscrit la semaine prochaine.
Oui, c'est ça, m'intéresse. Parce que dans le domaine de l'interculturel, avec le gros mot que c'est, parce que
c'est un gros mot.
Grosso modo, il est très. Quand on commence à le gratter,
il est piégé.
Le culturel, la diversité culturelle, l'inter, on voit bien, mais tout est chargé ensuite de batailles interculturelles elles-mêmes. Enfin, j'ai vu, parce que j'enseigne la philosophie à l'Institut catholique de Paris, et ils ont le REFI, le réseau. Je ne sais pas quoi, de l'interculturel, parce qu'ils sont très afriques. Donc ils ont énormément de personnes qui viennent de Côte d'Ivoire, du Bénin. Du reste, j'étais allé au Bénin sur un colloque sur l'interculturel comme ça. Et ils ont un réseau, mais alors qui vivait bien et qui d'un seul coup, vit plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu... Donc ils ont des choses, et puis ils ont un IFOMED de médiation qui fait un peu de médiation culturelle. Je sais qu'à la Sorbonne, il y avait le DU de médiation culturelle, où le TTK Botilema, mais je ne sais jamais quel est son prénom dans son nom.
C'est Jackie.
Elle avait continué à travailler.
Il ne faut pas trop en parler. C'est une psychiatrice qui n'est pas encore complètement fermée.
Mais il y a Madame Dorner aussi.
Véronique Dorner. Tout ça, c'est les anciens élèves.
Alors moi, j'ai gardé Véronique Dorner. Très bon contact avec elle.
Oui, nous aussi.
Elle est bien,
Véronique.
Donc, ça, c'est une psychiatrice. Voilà. Et alors, en fait, je suis en train d'essayer de regarder qui fait un peu quoi. Et je suis allé aussi... c'est à l'EHESS où il y a quelques anthropologues, notamment Ariel Plenex, qui est un tout petit bonhomme.
On va peut-être prendre un rendez-vous, comme on est voisins.
On est d'accord.
On peut prendre un café à un moment. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut laisser la parole. Vous avez mon numéro de téléphone. Il est sur mon mail.
Ok, ça marche.
Il est sur mon mail, voilà. Donc on se prend un café quand vous voulez, à la sortie de. Moi je suis ici, je suis à la retraite, j'ai du temps. Mais je pense qu'on a effectivement beaucoup de choses, et je vous propose qu'on programme le prochain samedi 2020 sur cette question-là précise. J'ai deux excuses donc à faire. Nicole Armoudon, qui est guyanaise, qui était intervenu et qui au passage est responsable pédagogique à Nanterre de la formation continue, à qui j'ai déposé un dossier pour le fameux DU, et qui me dit que ça avance.
À l'université de Nanterre.
Oui, l'université de Nanterre. Ça avance. Je ne sais pas vers où ça avance, mais ça avance. Le DU culturel.
Et dans quel domaine?
En général, c'est ça la question qu'il faut qu'on discute, c'est que moi c'est interdisciplinaire. Notre ici au regard, c'est la justice, la santé.
Mais le DU, il va s'inscrire dans une université avec une.
Sociologie, anthropologie. Mettez ça au conditionnel. Et la deuxième excuse, c'est Léa Amielson, qui est conseiller municipal d'un petit village dans le Gers, après être passé à Paris, et qui va laisser tomber ses actions municipales aux prochaines élections pour revenir sur Regard, qui nous dit qu'elle doit nous reparler de Madagascar, puisqu'elle nous avait fait part de ses expériences malgaches. Voilà, donc ça, c'est les deux. Alors, moi, je vous propose que...